VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 21 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord les titres. Sécurité renforcée dans le centre du Nigeria après des affrontements intercommunautaires meurtriers. Au moins 13 migrants sénégalais morts dans le naufrage d'une pirogue au large du Maroc. Au Nigeria, peu de femmes candidates. Au Libéria, peu de femmes candidates aux élections législatives. Un recul pour les défenseurs de la cause féminine. Au Kenya, appel poursuivi jeudi pour une deuxième journée consécutive de protestations antigouvernementales. Au Malawi, un Chinois condamné et déclaré persona non grata pour des vidéos racistes impliquant des enfants. Des dizaines de pays veulent rejoindre le groupe des BRICS selon l'Afrique du Sud. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Nigeria, l'armée a envoyé des renforts pour apaiser les tensions dans le centre du pays où au moins 300 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires ces trois derniers mois. Mohamedou Humfa.
L'armée a déplacé le quartier général de sa campagne militaire régionale, Safe Haven de Jos, capitale de l'État du Plateau, jusqu'au district de Mangou, l'un des plus touchés par les exactions. Des renforts ont été envoyés sur place pour débusquer les criminels qui sèment le trouble, a déclaré à la presse le chef de l'opération Safe Haven, le général Abdou Salami Aboubakar. Certains habitants de Mangou ont déclaré qu'ils étaient soulagés par les renforts militaires qui, associés à la mise en place d'un couvre-feu, semblent avoir contribué à calmer la situation. Depuis mai, l'État du Plateau connaît une résurgence des violences. Il est déplorable que plus de 300 personnes aient été tuées, a déclaré à la presse le gouverneur de l'État, Caleb Mouftouang, après une rencontre avec des hauts gradés de l'armée. L'enchaînement des meurtres, suivi des représailles et l'absence de justice efficace ont favorisé l'émergence dans la région d'une criminalité plus large, avec des gangs qui mènent des expéditions dans des villages où ils tuent les habitants et procèdent à des enlèvements contre rançon. Ces exactions sont l'un des multiples défis sécuritaires auxquels est confronté le nouveau président Bola Tinubu.
Au moins 13 migrants originaires des environs de Dakar au Sénégal sont morts dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes marocaines en fin de semaine dernière, a annoncé hier le maire de Rufisque, Oumar Cissé. Des rescapés qu'il a pu contacter ont, eux, parlé d'un bilan total de 18 morts, a-t-il dit. Selon M. Cissé, ils étaient dans une pirogue de 63 personnes qui a chaviré. Les rescapés sont pris en charge dans la commune de Dakhla, dans le sud du Maroc, et ils travaillent avec les autorités locales pour permettre leur rapatriement, a-t-il assuré. L'information n'a pas été confirmée par les autorités marocaines qui ne communiquent pas sur les bilans des naufrages de bateaux de migrants au large des côtes du royaume. Sénégal toujours, les députés ont adopté hier soir une loi supprimant un tribunal spécial anticorruption qui n'a pas, selon le gouvernement, permis d'endiguer la criminalité économique et financière. La CREI, au cours des répressions de l'enrichissement illicite, était également décriée par les opposants comme une juridiction créée pour les mater, citant les cas de Karim Ouad et Khalifa Sall, empêchés de participer à la présidentielle de 2019 à cause de condamnations de la CREI. Cette cour sera remplacée par un PJF, pool judiciaire financier, comprenant notamment un parquet spécialement compétent sur la criminalité financière et formé de magistrats spécialisés. Au Libéria, seulement 15% des personnes candidates aux élections législatives d'octobre sont des femmes. C'est un recul pour les défenseurs de la cause féminine dans le premier pays africain à avoir été dirigé par une femme, Ellen Johnson Sirleaf. Le point avec Michel Joseph.
Selon la liste préliminaire des candidats publiée hier par la commission électorale, 159 femmes sur 1030 candidats vont se présenter aux législatives. 15%, c'est un recul. Nos voix vont à peine se faire entendre, a estimé Nora Neufville, responsable d'une ONG active dans la défense des femmes. Sur les 103 parlementaires actuels, 11 sont des femmes. En mai, 25 des 46 partis politiques ont signé un protocole d'accord stipulant qu'au moins 30% des candidats seraient des femmes. Tant de femmes sur les listes électorales, mais la loi n'a finalement pas été entérinée par le président George Weah. Les élections législatives et présidentielles sont prévues le 10 octobre. Le président sortant, George Weah, brigue un second mandat face à une vingtaine de concurrents, dont une seule femme pour le moment. Pourtant, le Liberia a été dirigé par Ellen Johnson Sirleaf de 2006 à 2018 et elle a été la première femme présidente dans un pays africain.
Une vingtaine de pays du monde entier ont demandé à rejoindre le groupe des BRICS, composé à ce stade de 5 nations, et beaucoup d'autres pays ont fait part de leur intérêt, a affirmé hier l'Afrique du Sud qui accueille leur prochain sommet. Dilidico.
Le groupe des BRICS, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, s'est dit ouvert à une possible expansion. 22 pays ont formellement approché les pays des BRICS pour devenir membres du groupe, a déclaré Anil Soklal, ambassadeur itinérant d'Afrique du Sud pour l'Asie et les BRICS. Il a cité l'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite parmi les pays qui ont manifesté leur intérêt, formel ou informel, pour rejoindre les BRICS. L'architecture mondiale continue d'être inégale, continue de marginaliser les pays en développement et continue d'être dominée par quelques hégémonies. Nous ne voulons pas d'un tel monde. Nous voulons d'un monde où nos voix sont entendues, a-t-il déclaré. Le sommet des BRICS se tient du 22 au 24 août à Johannesburg, sans le président russe Vladimir Poutine, qui sera représenté par Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. 69 pays sont invités, dont des pays africains. Le président français Emmanuel Macron a demandé à participer, mais aucune décision n'a encore été annoncée.
Au Malawi, un ressortissant chinois poursuivi pour racisme et exploitation d'enfants en lien avec une série de vidéos diffusées sur Internet a été condamné hier par un tribunal au Malawi et prié de quitter le pays. Luke, 27 ans, a été reconnu coupable d'avoir recruté des enfants pour les exploiter à des fins racistes. Il les avait filmés en train de chanter des slogans racistes les concernant, le tout en chinois, une langue que ses enfants ne comprenaient pas. Mais puis il avait vendu les vidéos sur les réseaux sociaux chinois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a déclaré que sa ville n'a plus de place pour les migrants et que les autorités vont distribuer des prospectus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour les encourager à aller ailleurs, Lionel Gahima.
Nous n'avons plus de place dans la ville, a déclaré Eric Adams lors d'une conférence de presse mercredi. Le dépliant en anglais et en espagnol prévient les demandeurs d'asile que le logement, la nourriture et le transport et autres nécessités sont les plus élevés aux États-Unis. Il n'y a aucune garantie que nous serons à mesure de fournir un abri et des services aux nouveaux arrivants. Peut-on lire sur le prospectus qui leur demande d'aller vers une autre ville s'ils décident de s'installer aux États-Unis? Des États comme le Texas, à la frontière avec le Mexique, transportent des migrants vers des villes sanctuaires dirigées par des démocrates pour protester contre la politique d'immigration du président Joe Biden. Quelques 54 000 migrants vivent à New York dans des refuges ou des hôtels selon les autorités. Plus de 90 000 sont arrivés dans la grosse pomme depuis le mois d'avril de l'année dernière, mettant les services à rude épreuve. La section new-yorkaise de l'Union américaine pour les libertés civiles a qualifié ce plan du maire de cruel et d'illégal.
L'Arabie saoudite va convoquer le chargé d'affaires suédois pour dénoncer l'autorisation accordée par les autorités suédoises pour des actes de profanation du Coran que le ministère saoudien des Affaires étrangères a qualifié de honte. Riyad réagissait à un nouvel acte de profanation du Coran autorisé jeudi par les autorités suédoises devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, organisée par un Irakien réfugié en Suède qui a piétiné à plusieurs reprises et mis en pièces un exemplaire du livre saint sans y mettre le feu comme il l'avait annoncé. L'Irak a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadrice suédoise à Bagdad et rappelé son propre représentant en Suède en réaction à la nouvelle profanation du Coran à Stockholm, une initiative qui a aussi entraîné un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad incendiée par des manifestants. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Le Rwanda et la RDC veulent importer 350 000 tonnes de maïs du Zimbabwe, a annoncé Anxious Masuka, ministre de l'Agriculture. Le maïs est la première céréale produite et consommée en Afrique subsaharienne, précise l'agence Ecofin. Le commerce intra-africain de la denrée est en plein essor avec l'augmentation de la production dans plusieurs pays. La croissance du PIB en Afrique devrait revenir à 3,7% en 2023, a déclaré Albert Mouchanga de la Commission de l'Union africaine pour le commerce et l'industrie, c'est-à-dire au niveau d'avant la pandémie du Covid-19. C'est le deuxième taux le plus élevé au monde après l'Asie à 5% et devant l'Amérique latine et les Caraïbes à 1,6%. Monsieur Mouchanga a précisé que le PIB du continent était en train de rebondir malgré les effets négatifs de la crise mondiale. Ici aux États-Unis, des élus du Congrès ont lancé une enquête sur les investissements réalisés par des sociétés californiennes dans des entreprises chinoises spécialisées dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'ordinateur quantique. Le républicain Mike Gallagher, président de la commission, a justifié l'enquête car, selon lui, les entreprises privées sont utilisées pour des besoins militaires et de surveillance.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Victoire et record pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie en ouverture de la Coupe du Monde féminine.
Oui, le coup d'envoi de ce 9e mondial féminin a été donné hier jeudi. Avec les victoires des pays hôtes, la Nouvelle-Zélande a signé son premier succès de son histoire dans un mondial contre la Norvège, battu 1-0. Dans le second match, l'autre pays co-organisateur, l'Australie, a parfaitement lancé sa compétition en venant à bout de l'Irlande sur le même score devant près de 76 000 personnes, une affluence historique dans le pays pour du foot féminin.
Le Maroc fait partie des 4 représentants africains à ce mondial féminin. Les joueuses marocaines inspirent leurs jeunes sœurs.
Oui, Drissa, et nous prenons justement la direction de Casablanca pour voir comment les performances des Lions de l'Atlas suscitent des émulations chez des jeunes filles. Michel Joseph.
Dans la périphérie de Casablanca, une douzaine de collégiennes s'échauffent sur le terrain de l'école de football du club de quartier Avadas, à l'écoute de leur coach Mohamed Djidi. Houda Kalti, 16 ans, est fan de la gardienne Khadija Hermichi.
Bien sûr, j'ai été inspirée par l'équipe féminine lorsque j'ai vu des femmes jouer au sein de l'équipe nationale et je veux aussi faire partie de cette équipe nationale. Je travaille dur à l'entraînement pour atteindre cet objectif.
L'équipe féminine a signé un beau parcours lors de la dernière CAN disputée à domicile en juillet 2022, s'inclinant en finale devant l'Afrique du Sud 2-1 devant plus de 50 000 spectateurs. Cet espoir se nourrit aussi de l'épopée historique de la sélection masculine au Qatar, première équipe africaine et arabe à se qualifier dans le dernier carré d'un mondial. Une dizaine d'adhérentes étaient inscrites l'an dernier à l'école de formation Avadas, destinée à des jeunes issus souvent de familles déshéritées. Aujourd'hui, elles sont plus de 50.
En jouant au football, je me débarrasse des ondes négatives et je me sens bien. Ce sport me donne confiance en moi et en faisant quelque chose de spécial comme le football, on devient différente des autres.
Dès l'an prochain, le Maroc veut accélérer la formation pour atteindre 90 000 footballeuses et 10 000 techniciennes et techniciens.
Merci à Michel et à Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une visite de travail de 2 jours à N'Djamena au Tchad, facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour le processus de la transition en cours dans ce pays. Monsieur Tshisekedi a rencontré les dirigeants de la transition, les opposants, les confessions religieuses et la société civile, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjing.
Moi qui ne suis pas non plus exempt de problèmes, comme vous savez, mon pays est aussi victime d'agressions et de tentatives en tout genre de déstabilisation. Mais au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique, j'ai accepté cette mission avec honneur.
Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, facilitateur de la crise tchadienne. Il a abordé avec les acteurs et opposants de la transition des questions liées à la guerre au Soudan et son impact au Tchad, la demande du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine aux dirigeants de la transition de ne pas se présenter aux élections et l'enquête sur les événements du 20 octobre 2022 confiée à la CEAC. Selon lui, sa mission a été une réussite.
Je n'ai trouvé aucun Tchadien hostile à une avancée quelconque. Tous ceux que j'ai rencontrés ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. Je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution heureuse pour ce peuple.
Mais certains opposants tchadiens ont estimé que le Congolais Félix Tshisekedi est venu pour amuser la galerie puisqu'il ne veut pas entrer dans la profondeur du débat.
Il n'a pas cherché à savoir pourquoi nous ne voulons pas continuer à soutenir la transition. Il n'a pas voulu aborder cette question de la non-éligibilité des dirigeants et il n'a pas non plus accepté avec nous quelle pourra être la suite des événements.
Le professeur Avaksuma Djona, président du parti Les Démocrates et membre du groupe de concertation des acteurs politiques, le GCAP, qui regroupe 15 partis politiques.
Tout ce que nous avons pu tirer comme conclusion, c'est que M. Tshisekedi est arrivé chez nous pour nous demander de réintégrer les rangs du pouvoir. Donc pour moi, il n'y a pas eu une quelconque valeur ajoutée. C'est vrai, parmi nous, il y a des gens qui sont intéressés, qui vont probablement réintégrer le CNT ou le gouvernement, mais de notre côté, nous ne pensons pas que le moment est venu d'aller tête baissée comme ça pour suivre ou accepter ce qui est en train de se passer.
Abdourahmane Diasnaba est membre du cadre national de concertation des partis politiques et conseil à la primature, reconnaît lui aussi que l'application des acquis du dialogue national inclusif dans la deuxième phase de la transition pose problème.
Je sais que le gouvernement a fait des efforts, mais il faut qu'il en fasse davantage dans le sens de l'ouverture, dans le sens de l'inclusivité, dans le sens d'appliquer les résolutions et les recommandations du dialogue. Mais je pense que le rapport que le CAC va faire va peser sur la balance. Les choses sont exposées dans les médias, dans les réseaux sociaux, il n'y a rien à cacher.
La coalition Wakitama, quant à elle, attend toujours le rapport de la CAC sur les événements du 20 octobre et déplore qu'à cette date, aucun des auteurs des crimes de cette tuerie de masse n'a été identifié. Félix Tshisekedi entend, dans le cadre de son mandat, maintenir les contacts avec toutes les parties prenantes dans la perspective d'une transition inclusive, consensuelle et apaisée. André Kordoma-Dingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Merci André. Pendant ce temps, dans le nord-est de la RDC, les tueries continuent en Ituri, malgré l'état de siège dans cette région depuis près de 2 ans. La semaine dernière, plus de 40 civils ont été tués en 3 jours près de Bunia, la capitale provinciale. Un mois plus tôt, une cinquantaine de civils ont été égorgés en un seul jour à Lala, dans un camp de déplacés. Eddie Isango a joint à Bunia le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama.
Ce qui s'est passé exactement, c'est en fait, on dirait peut-être d'une façon un peu laconique, c'est un jeu finalement qui est devenu un jeu de ping-pong finalement. Parce qu'en fait, la vérité, nous étions en train d'organiser. Nous avons d'abord séparé des groupes armés et leur communauté. Et donc, parce que nous avions déjà terminé le dialogue avec les groupes intracommunautaires, nous sommes passés au dialogue avec les groupes armés. Malheureusement, il y a certains leaders de groupes armés qui n'étaient pas, ou certains leaders dans les groupes armés qui n'étaient pas contents. Et donc, ils ont organisé des attaques qui sont parties du site de Lala. Et malheureusement, les autres aussi ont répondu. Et donc, ce groupe armé là, c'est les Zahir qui a fait sa jeunesse dans le site des déplacés de Lala, qui a attaqué le Codeco, et malheureusement le Codeco a fait des représailles, la ligne, et voilà, il y a eu tous ces morts là, notamment 20 femmes, 10 enfants et 10 hommes.
C'était donc une représaille de Zahir aux attaques des Codeco?
Non, c'était une représaille de Codeco aux attaques de Zahir, c'est plutôt le contraire, c'est ça. Codeco a fait des représailles, des attaques de Zahir, et qui partait du site de Lala. Parce que cette jeunesse-là était dans le site de Lala, le site déplacé de Lala.
Il y a juste un mois, justement, sur les sites de Lala, plus de 50 personnes ont été tuées, mais un mois plus tard, 40 personnes sont encore tuées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les précautions n'avaient pas été prises pour éviter que ça se reproduise?
Non, il faut savoir que dans le cas d'espèces ici, je crois qu'il faut plus de l'anticipation. Pourquoi? Parce que les attaques se font la nuit, les attaques sont de nuit, et vous savez qu'il faut beaucoup d'un certain matériel pour, n'est-ce pas, opérer la nuit, et ça devient difficile. Dès que l'attaque est déjà amorcée, ça devient difficile que ce soit la MONUSCO qui n'a pas ce matériel, et que ce soit aussi nos militaires qui n'ont pas ce matériel de vision de nuit, et voilà. Et donc, moi, je pense que c'est plus, il fallait anticiper. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu anticipation, dès que l'attaque a commencé, la nuit, ça devient très difficile de réagir.
2 ans depuis que l'état de siège a été institué, mais les attaques se poursuivent et se multiplient. D'ailleurs, l'ONU et les organisations humanitaires tirent les signaux d'alarme disant que ça se multiplie. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'état de siège n'a pas apporté des fruits attendus?
C'est plutôt un problème de communauté, un problème de manipulation, je veux dire. Vous savez, nous sommes ici dans ce qu'on appelle une guerre atypique et asymétrique. Donc, ceux qui attaquent viennent de la population civile et ceux qui réagissent viennent aussi de la population civile.
Le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, gouverneur militaire de l'Ituri.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
En Afghanistan, les employés des salons de beauté de Kaboul, la capitale, sont descendus dans la rue pour protester contre un récent décret des talibans qui prévoit la fermeture de tous les salons de beauté pour femmes dans moins d'un mois. Des milliers de femmes perdront ainsi leur emploi si la mesure est mise en application. Reportage de Wahid Faizi, le récit est de Jean-Roger Bion.
Les forces de sécurité talibanes ont utilisé des canons à eau et tiré des coups de feu en l'air pour disperser des dizaines de femmes qui protestaient contre l'interdiction récente des salons de beauté. Les manifestantes ont scandé « Ne prenez pas nos emplois » et « Pain, emploi, liberté et justice ». Une manifestante s'explique.
Je fais partie des femmes qui ont participé à la manifestation d'aujourd'hui pour réclamer nos droits du travail et de l'éducation.
Les talibans affirment que les services offerts par ces salons sont interdits par l'islam, mais les salons de beauté pour femmes fonctionnent sans aucune restriction dans les pays musulmans. Les manifestantes, dont beaucoup ont choisi de ne pas révéler leur nom, affirment que la décision des talibans risque d'enfoncer davantage les gens dans la pauvreté. Une autre manifestante à Kaboul.
Indeed, En effet, nous voulons savoir d'où vient l'ordre. Pourquoi privent-ils les gens de leurs moyens de subsistance? Pourquoi poussent-ils les gens dans la pauvreté? Si les parents n'ont pas de travail, comment pourraient-ils nourrir leurs enfants?
L'interdiction des salons de beauté est la dernière d'une série de restrictions imposées aux femmes afghanes. Les talibans ont déjà interdit l'accès des femmes à l'enseignement secondaire, à l'emploi et aux espaces publics. Annie Forsheimer du Centre international d'études stratégiques.
Je pense que ce qui arrive aux femmes et aux filles est terrible. C'est une violation des droits de l'homme. C'est un crime contre l'humanité.
Les Nations unies ont appelé les talibans à retirer cette interdiction qui, selon l'Organisation mondiale, aura un impact négatif sur l'économie et contredit le soutien déclaré à l'entrepreneuriat féminin. Athena Hachemi, propriétaire du salon Ena Beauty.
L'ensemble de la ville de Kaboul est confronté à un problème. Si les salons de beauté sont fermés, ces femmes ne pourront pas trouver d'emploi ailleurs pour avoir un revenu.
Selon une source à la Chambre de commerce et d'investissement d'Afghanistan, il existe plus de 3000 salons de beauté à Kaboul et environ 12 000 dans tout le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Merci Jean-Roger. Coup d'envoi hier de la Coupe du Monde féminine. Les deux pays hôtes, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ont signé leur premier succès contre la Norvège et l'Irlande sur le même score de 1-0 devant près de 76 000 spectateurs. Une affluence historique pour le football féminin. Le Nigeria, première nation africaine à entrer en lice, a fait match nul, 0-0 face au Canada. À travers ce reportage de Timothée Obiezu, Yakuba Ouedraogo se penche ce matin sur cette équipe nigériane.
C'est l'équipe africaine la plus expérimentée dans l'histoire de la Coupe du Monde féminine. Le Nigeria a participé à toutes les éditions depuis le premier tournoi en 1991. Les Super Falcons, comme on les appelle, ont atteint deux fois les phases à élimination directe. Un quart de finale en 1999 reste la meilleure performance jamais réalisée par une équipe africaine. Cette tradition de foot féminin a suscité des vocations et continue de stimuler le rêve de jeunes filles dans un contexte social pas toujours favorable. Blessing Emmanuel a commencé à jouer au football à l'âge de 12 ans sur ce terrain d'un quartier d'Abuja. Sa famille s'y est d'abord opposée et a essayé de la forcer à arrêter.
Mon père disait, non, je ne pense pas que je veuille que ma fille soit au milieu de garçons. J'ai dû les convaincre.
Emmanuel a par la suite rejoint le Niger Rattles Football et a eu le privilège de participer avec l'équipe nationale nigériane des moins de 17 ans au mondial de sa catégorie l'année dernière en Inde. Elle va suivre de près les différentes prestations de ses aînés lors du mondial féminin. L'Afrique attend beaucoup des Super Falcons qui sont les plus titrés du continent avec 9 sacres sur 11. Cependant, leur domination continentale s'est effritée. Elles ont terminé à la 4e place de la dernière CAN. L'une des causes reste la condition salariale pas toujours à la hauteur du succès. Les joueuses affirment qu'elles sont souvent mal rémunérées par rapport à leurs homologues masculins et réclament l'égalité des salaires. Bunmi Oladeji est une joueuse des Super Falcons.
En tant que fille, vos parents s'attendent à ce que vous travailliez, que vous vous mariez et que vous ayez des enfants. Mais moi, je suis passionnée de football. C'est là que je veux gagner de l'argent.
Les supporters craignent que ces différends ne sapent le moral des troupes lors du tournoi, mais la Fédération nigériane de football a promis de se pencher sur la question. L'entraîneur adjoint des Super Falcons, Sani Oudou, pense que la parité sera atteinte.
Ils veulent voir si ce que l'homme obtient est ce que la femme obtiendra aussi. Mais cela prendra du temps.
En mars, la FIFA a annoncé que chaque joueuse de la Coupe du Monde féminine recevrait 30 000 dollars. Les joueuses de l'équipe gagnante recevront chacune jusqu'à 270 000 dollars. Le voyage en vaut donc la peine pour les Super Falcons. Le Nigeria est dans un groupe B difficile avec l'Australie, pays hôte, le Canada champion olympique et l'Irlande.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.